Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les femmes des origines, les Ève, les Pandora, les Vénus, et les enfants, rois chéris, au siècle des Lumières. Les femmes, les enfants, tout un bon programme pour Dès lundi de l'histoire diffusé pour la première fois sur France Culture le 12 mai 2003. Mais attention, les femmes d'abord et les enfants ensuite.
Les lundis de l'histoire, Michel Perrault, Arlette Farge. D'abord le grand entretien avec Michel Perrault, puis l'histoire autrement avec Arlette Farge. Mais d'abord le grand entretien, il est consacré ce matin à des femmes très anciennes, puisqu'il s'agit des femmes des origines. Femmes mythiques, comme Ève, mère de l'humanité selon la Bible, Pandora, mère des femmes selon les Grecs, Hésiode notamment. Femmes réelles, mais mythiques aussi, de la préhistoire, Lucie, la célèbre australopithèque dont le squelette, vieux de plus de 3 millions d'années, a été découvert par Yves Coppens en 1974 en Éthiopie. Et ce fut une manière de révolution. La Vénus de la grotte Chauvet en Ardèche, qui est la plus ancienne représentation féminine connue à ce jour, soit 30 000 ans avant Jésus-Christ, et quelques autres. Ces femmes des origines vont donc ce matin nous retenir. Avec deux éminentes spécialistes. Claudine Cohen, vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes historienne des sciences et en particulier de la paléontologie et de la préhistoire. Votre réputation est internationale et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns, « Le destin du mammouth au seuil » en 1994, « L'homme des origines au seuil » également en 1999, et vous venez de publier « La femme des origines, image de la femme dans la préhistoire occidentale » chez Belin-Herscher, 2003. Et puis, nous sommes avec Pauline Schmidt-Pantel. Pauline, vous êtes professeure d'histoire ancienne à l'Université Paris 1, vous êtes spécialiste d'histoire grecque. Parmi vos ouvrages, il faut citer surtout « La cité au banquet » qui est parue à l'École française de Rome en 92, et vous êtes une pionnière de l'histoire des femmes. Vous avez notamment dirigé le tome 1 de l'histoire des femmes en Occident. Et vous avez donné dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Claude Schmitt, intitulé « Ève et Pandora, la création de la première femme » qui est paru chez Gallimard dans la belle collection « Le temps des images » en 2001, une étude qui s'intitule « La création de la femme, un enjeu pour l'histoire des femmes », où vous vous interrogez sur les contradictions des deux versions de la Genèse et vous comparez Ève et Pandora. Et bien sûr, les théories du matriarcat n'ont pas de secret pour vous. Or, ces représentations ont longtemps tenu lieu de savoir pour les femmes de la préhistoire dont vous vous occupez, Claudine Cohen, et vous le montrez. Vous montrez l'épaisseur du silence qui les enveloppe et l'importance de l'imaginaire pour comprendre les traces évidemment ténues que l'on retrouve sur elles. Vous parlez d'ailleurs dans votre introduction de la moitié invisible de l'humanité préhistorique. Claudine Cohen, pourquoi ce silence et comment en est-on sorti, étant entendu que le comment en est-on sorti, on va le développer surtout un petit peu plus tard.
Oui, invisibilité proclamée en tout cas par les archéologues hommes qui ont refusé pendant très longtemps de désigner des objets ou des activités qui seraient propres aux femmes sur le terrain et parmi les traces de la préhistoire qu'ils pouvaient recueillir. Silence donc qui fait par exemple qu'en France, je crois, aucun livre n'a été publié sur la femme préhistorique, aucune monographie générale. Il y a quelques éléments de réflexion, il y a des choses sur l'art préhistorique, mais la place de la femme dans la préhistoire a été un peu oubliée dans la bibliographie française. Ce n'est pas le cas ailleurs, et ce silence français est peut-être spécifique à notre contexte. Aux États-Unis, c'est au contraire très bruyant. Il y a une multitude, des centaines de livres se publient, ils s'en publient tous les jours. Silence relatif donc. Silence bruyant aussi, puisque comme vous le disiez, cette absence de la femme dans les textes scientifiques est relayée par un bruit énorme lorsqu'il s'agit par exemple de commenter ces statuettes, ces figurines préhistoriques qui ont été trouvées depuis le milieu du 19e siècle et sur lesquelles il existe une littérature absolument proliférante.
Dans votre livre, ce qui fait sa beauté, c'est un livre passionnant, mais c'est un livre beau. Il y a énormément d'images, de photographies, de toutes ces petites statuettes qui ont été retrouvées. Et les photos sont souvent plus grandes que l'objet.
Absolument. Hein, c'est une chose qu'il faut absolument noter. Oui. Et j'ai voulu mettre justement les dimensions de ces objets. Certains sont minuscules. Hein. Toutes les statuettes de Grimaldi font 5 cm de hauteur. La Vénus de Brassimpouy, celle qui est si connue, ce qui petit visage très fin. Bon, on le représente toujours sur des affiches énormes parce qu'elle est très belle, mais en fait, elle est minuscule. Elle fait aussi environ 5 cm.
Oui, autrement dit, pour être préhistorienne, il faut regarder de près.
Absolument.
Hein, et avec des questions.
C'est un travail de minutie. Oui, oui. Alors, donc beaucoup de bruit, beaucoup d'imagination, beaucoup de commentaires. Mais malgré cela, les préhistoriens ont affiché l'idée qu'on ne pouvait rien dire des femmes, qu'elles étaient invisibles. Et tout un pan de la préhistoire scientifique concerne l'homme, avec un grand H, mais aussi d'une façon peut-être un petit peu souterraine, implique que cet homme de la préhistoire était avant tout masculin. C'est lui qui était le chasseur, c'est lui qui était l'inventeur, c'est lui qui dominait la famille, les femmes n'étant reléguées qu'à des tâches subalternes. D'ailleurs, dans l'iconographie du 19e siècle, que je représente aussi dans le livre, on voit la femme accroupie, entourée d'une abondante progéniture, et l'homme debout, dressé, regardant vers le lointain. Oui. Et c'est un peu une image de ce qu'a été la préhistoire pendant très longtemps.
Oui, il y a aussi, en effet, dans votre livre, des reproductions de tableaux, ou d'images. Vous citez le livre de Louis Figuier, qui a été un classique à la fin du 19e.
Jusqu'au début du 20e siècle, un classique, et dont les images sont encore représentées aujourd'hui.
Oui, ou à Orsay, dans la peinture naïve, notamment l'histoire de Caïn. On voit très très bien comment sont représentés les hommes et les femmes dits primitifs.
Oui, au tournant du 19e siècle, il y a tous ces peintres pompiers, Jamin, Cormon, tous ces gens qui représentent la préhistoire, et souvent, d'ailleurs, la femme n'est pas totalement absente. Elle est là, mais elle est souvent dévêtue, la poitrine avantageusement dénudée, plutôt comme un objet érotique que comme une actrice.
Oui.
Et donc cette absence, ce silence, à mon avis, doit être nuancé au sens où elle est présente, mais elle est reléguée à des rôles très particuliers. L'érotisme, la reproduction, le fait qu'elle est dominée par l'homme. Donc parler de la femme, le renouvellement de ces discours sur la femme préhistorique passe par le fait de lui donner une place plus active et une présence autre que celle manifestée par ces représentations un peu caricaturales la féminité.
On reviendra probablement sur ces représentations primitives, mais c'est très important parce que c'est quand même ainsi que l'on explique la plupart du temps l'installation de la domination masculine.
Oui, bien sûr.
L'homme fort, violent, qui s'impose à des pauvres femmes opprimées. C'est un petit peu ce que disait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe.
Je crois que Simone de Beauvoir, à mon avis, répercute un certain nombre de lieux communs qui ont voyagé depuis le 19e siècle, en particulier dans l'anthropologie culturelle, dans l'ethnologie, dans l'ethnologie évolutionniste. Mais si on prend quelqu'un comme Darwin, par exemple, Darwin ne part pas de l'idée de la passivité des femmes.
Pas
du tout. Au contraire, dès 1870, il pose l'idée de la sélection sexuelle, et ce sont les femmes qui sélectionnent les hommes. Évidemment, Darwin a eu toutes sortes d'ennuis à son époque avec cette idée. À l'époque victorienne, on lui a un peu reproché d'attribuer ainsi aux femmes une place aussi.
On va revenir sur cette question de la sexualité qui est très très importante. Mm-hmm. Mais en effet, vous citez Darwin, les femelles n'acceptent que les hommes qui les séduisent.
Oui.
Donc l'idée que les femmes ont un rôle actif dans le processus de séduction. Alors évidemment, quand c'est l'imaginaire qui domine, ce sont les mythologies, et vous montrez bien que les grandes représentations, Ève, Pandora et le matriarcat, ont régné pendant très longtemps sur la préhistoire. Et là, je me tourne vers vous, Pauline. Comment avez-vous lu le livre de Claudine Cohen de ce point de vue ?
Ben, je l'ai lu de façon finalement très proche, parce que tous les problèmes que parcourt ce livre, finalement, et rencontre, sont des problèmes très proches de, pour les historiens de l'Antiquité en particulier, qui ont eu à, et qui ont toujours, à réfléchir sur la prégnance du modèle historiographique dans la manière dont on construit nos objets historiques. Et là, c'est un des fils directeurs, je trouve, très intéressant du livre de Madame Cohen, de passer constamment de la réalité, entre guillemets, de la femme préhistorique au discours que les modernes, depuis le 19e siècle au moins, ont créé sur cette femme. Et elle montre de façon, je trouve, très pertinente comment ces discours éclairent naturellement totalement la représentation de ces femmes préhistoriques. Et à propos des mythes, puisque vous parliez de Pandora, d'Ève, et que vous parliez aussi du silence en introduction, je citerai un mot de Nicole Leroux, auquel j'aimerais qu'on rende hommage, oui, puisqu'elle vient de mourir et qu'elle a joué un rôle très important dans les études d'histoire grecque, et particulièrement sur le problème de la place du féminin dans la pensée masculine grecque. Nicole Leroux écrivait quelque part, je crois dans les Enfants d'Athéna, que les Grecs ont écrit un océan de discours sur les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe que l'on retrouve, je pense, aussi dans le livre de Claudine Cohen, entre un silence social, un silence de la femme au travail, de la réalité de la présence féminine dans le groupe, et une prolifération de représentation. Mmh. Et alors, je pense que dans le livre sur la préhistoire, on voit très bien ça dans l'art, puisque l'essentiel des sources, bien évidemment, sont des sources de type artistique. Dans le monde antique, on voit très bien ça dans les créations mythiques. Et Pandora, par exemple, pour le monde grec, Ève pour le monde sémitique, sont deux grandes créations qui montrent à quel point les hommes n'ont pas, qui écrivaient naturellement, qui pensaient, écrivaient ces mythes, n'ont pas cessé de penser la femme en fonction de problèmes beaucoup plus généraux que celui du masculin et du féminin. Mmh. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, pour revenir juste en deux mots sur Pandora, dont vous parlez également dans votre livre.
Il faudra nous parler d'Ève aussi.
Oui. Pandora est le mythe de la femme fabriquée, bien évidemment, puisque dans le monde grec, il y a un paradoxe. Les hommes, en tant qu'hommes virils, existent depuis toujours. On ne les voit pas créés. Et les femmes, au contraire, sont créées un beau jour. Une femme, la première femme, Pandora, est créée par la volonté des dieux.
Donc, les hommes sont toujours là.
Ils sont toujours là. Oui. Ils sont là, ils vivent, ils coexistent avec les dieux. Et un beau jour, Zeus décide de créer une première femme qui va s'appeler Pandora pour répondre à une ruse des hommes. C'est-à-dire que dès le départ, la femme est créée dans ce mythe grec comme une espèce de contre-don mauvais, méchant, de la part du dieu suprême vis-à-vis des hommes qui l'ont trompé en volant le feu. Bon, Pandora est donc une femme entièrement artifice, entièrement fabriquée, et dès le départ, donc dès son origine d'une certaine manière, elle est en décalage absolu avec l'homme viril qui lui n'a pas été créé. Ouais, mais donné. Bon, et alors on comprend bien comment ensuite toute la pensée grecque va pouvoir s'inscrire à partir de ce mythe pour développer dans la littérature, dans la philosophie, dans l'art, des variantes sur cette femme qui arrive après et qui arrive comme un artifice. Bon. Dans le monde...
Hésiode.
C'est Hésiode le texte fondateur, mais Hésiode, qui écrit à l'époque archaïque, au début du 8e siècle avant Jésus-Christ, est ensuite entièrement repris par toute la culture grecque. Et à l'époque classique ou à l'époque hellénistique, le mythe hésiodique joue le rôle d'un mythe fondateur de ce point de vue-là. Et il n'y a pas beaucoup de réactions contre ce mythe-là. Du côté d'Ève, les choses sont différentes. bien évidemment, puisque Ève n'est pas fabriquée comme un artifice. Et puis, parce que de la création d'Ève, il y a deux versions. Que l'on trouve dans la Genèse. La première, qui est malheureusement la plus récente, et qui est que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il la créa, homme et femme il la créa. Bon.
Pourquoi dites-vous ça, malheureusement la plus récente?
Parce que, naturellement, les exégètes de la Bible se sont servis du fait que cette version-là était la plus récente pour dire qu'elle était moins authentique.
Voilà.
Bon. Et l'autre version, que tout le monde connaît davantage, je crois, et qui est aussi dans la Genèse, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Donc il y a dans la Genèse deux types de création de la femme. L'une qui est que l'homme est à la fois homme et femme, l'homme en tant que genre humain, et l'autre que la femme est créée à partir d'une partie de l'homme. Et
donc seconde,
auxiliaire. Accessoire, auxiliaire, etc. Et ce double mythe de création aurait pu inciter les juifs puis les chrétiens à réfléchir différemment sur le rapport entre masculin et féminin. Mais la version que j'ai citée, la première, a été totalement occultée, bien évidemment. Et c'est la seconde, la femme, Ève, comme création à partir du corps de l'homme, qui a finalement dominé.
Et là on rejoint l'histoire de l'Église, finalement.
Tout
à fait. De la pensée chrétienne.
Tout à fait.
À quel moment est-ce que la version femme seconde a été véritablement instaurée par l'Église?
Très tôt, dès les pères de l'Église, je crois.
Dès les pères de l'Église.
Dès les pères de l'Église, et ensuite, bien sûr, reprise pendant toute la tradition médiévale.
Oui. Dans le livre Ève et Pandora, publié chez Gallimard, il y a des études sur les représentations de la création, évidemment, à l'époque médiévale.
Oui.
Et de temps en temps, on voit une Ève et un Adam qui sortent tous les deux ensemble.
Oui,
en même temps.
Enfin, voilà, si c'était une référence alors à cette version.
Cette première version qui est rare.
Version, oui,
qui
tout à fait. C'est Jérôme Bachet qui a,
cherché cela. Oui, alors ça c'est tout à fait important. Est-ce que vous pensez, Claudine Cohen, que cette vision des choses a eu de l'influence, par exemple, sur Lucie ou sur...
Moi je reprends cette notion de mythe, peut-être dans un sens un peu moins précis et technique. Que celui qu'utilisent les historiens de la Grèce antique. Mais il me semble que des mythes animent la pensée scientifique.
Et, toujours. Toujours.
En tout cas, dans les sciences dont je m'occupe, la paléontologie et la préhistoire, qui sont des sciences de la rareté, et qui doivent inventer, en quelque sorte, un récit des origines. Ces discours sont habités par des représentations mythiques. Et il me semble qu'Ève est un des éléments de représentation qui est permanent et qui est présent, non seulement souterrainement, mais même explicitement dans le discours des paléontologues, des préhistoriens et même des biologistes.
Oui.
Là, j'ai été frappée dans votre livre, vous montrez une image de Lucie, justement, avec qui l'homme qui n'a pas du nom, si j'ose dire, son compagnon, lui tient l'épaule.
Au Muséum de New York.
Voilà, au Muséum de New York. Et c'est une création très récente, 93, je crois, 1993, si mes souvenirs sont bons. Et votre commentaire montre très bien comment cette image est complètement influencée par l'image de la chute et de la sortie du paradis. Terrestre, Adam et Ève.
Voilà, il y a un volcan en éruption, c'est le glaive divin, et ils sont là, ils marchent.
Ils sont charmants, d'ailleurs.
Oui, mais ils ont l'air un peu apeurés.
C'est la même.
Et là, on voit bien la
prégnance du
mythe.
Je sais que Ian Tattersall, qui a fait ce diorama, n'est pas très content de cette interprétation, mais je crois qu'il faut insister sur le fait que le discours scientifique, même s'il se dégage de l'imaginaire au cours de son histoire, reste habité par des mythologies. Et si on prend par exemple la biologie moléculaire, les travaux les plus récents et les plus rigoureux, semble-t-il, ils continuent à aboutir à des discours sur l'Ève mitochondriale. Alors, c'est une image.
Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est.
À partir de marqueurs génétiques étudiés sur des femmes actuelles, les généticiens tentent de remonter à l'origine des populations humaines actuelles. donc à l'origine de ce qu'on peut appeler les races, la diversité humaine actuelle. Et par voie matrilinéaire, les mitochondries sont des marqueurs génétiques qui permettent, qui existent chez les femmes et qui permettent de remonter de façon matrilinéaire jusqu'à une origine commune. Et pour parler de cette origine commune, qui est donc une construction quasiment mathématique à partir d'éléments de biologie moléculaire, eh bien on parle d'Ève mitochondriale. Et le mot d'Ève est vulgarisé dans toutes sortes de journaux, de livres, et parle aux gens. Mais à la fois, ça crée des images, ça crée des représentations qui, à mon sens, restent des représentations mythiques.
Oui.
J'ai été frappée par le fait que on parlait d'Ève, mais mitochondriale, mais on parlait aussi d'Ève africaine.
Oui, et là-dessus, c'est une extrapolation. Bon, il y a certains éléments qui permettraient de penser que l'Afrique est effectivement le berceau de l'humanité, mais il y a eu des dérives, même très racistes, qui conduisent à dire que c'était l'Ève noire. Alors on représente cette femme des origines comme une noire, ou même comme certaines populations noires d'Afrique qui seraient des populations originelles. Donc il y a tout un transfert, tout un travail du racisme, en quelque sorte, à travers ces représentations de l'origine.
Une espèce de contre-racisme, en quelque sorte.
Non, là, c'est franchement du racisme.
C'est franchement du racisme.
C'est-à-dire que les populations originelles de l'humanité, l'origine de l'humanité, seraient représentées, par exemple, par l'ébauchement. Ce qui n'est absolument pas prouvé. On met une population particulière comme étant la plus primitive de l'humanité actuelle. Oui. Donc c'est une façon... Bon, il y a des livres assez scandaleux d'ailleurs qui ont été publiés
Oui, parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait un désir de dire l'Afrique, berceau de l'humanité, triomphe de Lucie, notre mère à tous.
Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Possible, bon, là, on n'est pas du tout dans l'époque de Lucie, on est à peu près à 100 000 ou 200 000 ans. Hein, Lucie, c'est un autre...
C'est une autre affaire.
Et c'est vrai que la découverte de Lucie aussi a été... portée par des mythes.
Racontez-nous un peu la découverte de Lucie, parce que c'est très important, que ça s'est fait quand, comment et qu'est-ce qui a été dit autour.
Lucie a été découverte en 1974. Et je ne sais pas si
c'est... En Éthiopie,
par une équipe franco-américaine, Don Johnson et Yves Coppens en étaient les directeurs. Et je ne sais pas si ça s'est beaucoup dit, mais 1974, c'est vraiment l'apogée aux États-Unis du féminisme, du féminisme militant. Et je crois que ce n'est pas un hasard si Lucie a été en quelque sorte construite par la paléontologie, au moment même où la femme préhistorique, dans le discours des paléontologues et des anthropologues américaines, prenait une place centrale.
C'est presque une construction. Oui, assez extraordinaire, ça. Oui, oui.
Et d'ailleurs, il y a assez peu d'éléments qui permettent de dire que Lucie est une femme.
Oui.
C'est une hypothèse. Et je raconte
c'est
l'histoire.
C'est pas une certitude, c'est une hypothèse.
J'ai relu le récit de découverte que fait Don Johnson, puisque bon, c'est en ramassant un certain nombre de fragments sur le terrain qu'il a rapporté au camp et très rapidement reconstitué, qu'on a baptisé Lucie tout de suite comme une femme. Mais il n'y avait pratiquement aucun élément, sauf sa gracilité. Mais la gracilité est un trait comparatif. C'est-à-dire qu'on ne peut dire qu'un hominidé est gracile que relativement à un autre hominidé plus vigoureux ou plus fort.
Donc pas de certitude de ce point de vue-là.
Hein? Aucune certitude. Au départ. Mmh. Après, le bassin a été étudié. Il y a un certain nombre de critères anatomiques sur le bassin qui permettent, chez l'homme actuel, de marquer la différence entre l'homme et la femme, mais est-ce que ces critères anatomiques sont valables 3 millions d'années avant nous chez un genre d'hominidé qui n'est pas le nôtre ? Il y a là toutes sortes d'inconnus qui restent encore aujourd'hui des inconnus et qui font que, pour certains paléontologues, Lucie est peut-être Lucien.
Lucie est peut-être
Alors,
Lucien.
il y a là un mythe, à mon avis, qui a été construit d'abord comme une femme et d'autre part comme l'ancêtre. Voilà. Et Lucie est-elle l'ancêtre de l'humanité ? On a voulu le croire au moment où on ne connaissait rien d'autre à cette époque-là, à 3 millions et demi d'années avant le présent.
C'est quand même considérable.
C'est considérable, mais aujourd'hui on trouve des hominidés à 6 millions, à 6 millions d'années.
On trouve des hominidés à 6 millions d'années.
On trouve des hominidés au Kenya.
Est-ce que Lucie, en tant que femme hypothétique, a été détrônée ? Est-ce qu'on a trouvé d'autres raies dont on peut dire qu'ils sont...
Féminins,
oui.
C'est très difficile. Le privilège de Lucie est qu'elle était presque complète.
Ah, oui.
C'est-à-dire que par le jeu de la symétrie, on pouvait reconstituer un squelette complet. Mais à cette époque-là...
Crâne compris
une partie du crâne, une partie la mandibule en tout cas. Mmh. On n'a pas le crâne cérébral. Mais à cette époque-là, on ne trouve que des petits morceaux, des fragments. Et antérieurement, si on trouve une dent, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a un crâne qui a été trouvé au Tchad par Michel Brunet, qui est daté à 7 millions d'années. Qui est un crâne d'hominidé. Alors, il y a toute une discussion aussi là pour savoir si c'est un crâne féminin ou masculin, ce qui changerait complètement la perspective scientifique. Oui. Parce que le crâne féminin serait plus gracile, il y aurait un dimorphisme sexuel, etc. Les ossements qu'on découvre à ces époques très reculées de l'humanité ne permettent généralement pas de déterminer le sexe.
Pauline ?
Oui, pour revenir sur le caractère de l'ancestralité de Lucie, j'ai trouvé extraordinaire le poème que vous citez d'André Chédid.
Ah oui,
et on pourrait peut-être le lire. Oui. Je suis, donc ça s'appelle Lucie, la femme verticale, et c'est « Je suis malingre, ratatinée. Pourtant, c'est moi, ta racine fixée dans la motte du temps. Moi, l'humble aïeule, empêtrée et confuse, celle qui te fait signe et s'agite entre ténèbres et clarté. Me voici immémorial, me voici tourmentée par cette flamme tenace qui me lie irrévocablement à vos lendemains. » Et je trouve que ce poème ouvre finalement à toute une partie aussi qui est présente dans votre réflexion et aussi dans la réflexion sur l'histoire ancienne de ce problème du matriarcat, la matrilinéarité. Oui. Et puis ensuite, parce qu'il y a quand même aussi une espèce de chronologie dans cette pensée historiographique de la grande déesse et la grande mère.
Oui.
Et là, de ce point de vue, votre livre, Lucie, et votre livre et ce qui se pense dans le domaine de l'histoire ancienne sont très très proches.
Oui. Mais il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit d'une des multiples représentations, que ce poème est une forme d'imaginaire qui est...
Très beau poème d'ailleurs d'André Chédid.
Qui est...
J'étais question, Lucie, pourquoi on l'a appelée Lucie ?
Oh, c'est à cause de la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
Voilà,
donc c'est cela, mais je crois qu'il y avait cette volonté.
Oui, oui, c'est autour de Lucie.
Et puis il y avait cette volonté d'en faire une femme. Je crois que c'était vraiment une volonté, enfin en tout cas peut-être inconsciente, mais il y avait quelque chose de porteur dans ce féminisme qui construisait la femme des autres.
Et là, on voit bien le rôle de l'imaginaire.
Oui, et vous savez, en France par exemple, pendant très longtemps, c'est l'homme de Cro-Magnon qui a été le héros de la préhistoire. Et Lucie a en quelque sorte pris la place de l'homme de Cro-Magnon dans notre imaginaire. De l'ancestralité. Bon, à une époque beaucoup plus ancienne, mais elle a été construite comme l'ancêtre. Oui. Aujourd'hui, il y a très peu de probabilités pour qu'elle soit l'ancêtre. Elle n'est pas notre ancêtre.
Elle n'est pas notre ancêtre.
Elle est notre...
Voilà, détrônée un peu, Lucie.
Arrière-tante, quelque chose comme ça, mais on ne peut pas dire que ce soit l'ancêtre. Mais pendant très longtemps, on a voulu faire d'elle vraiment le berceau, l'origine, la grand-mère de l'humanité. Mmh. Il y a là une volonté presque de mythe. À travers cette construction. Oui. Et ce que j'ai voulu dire dans l'étude de Lucie, autant que dans celle de l'Ève mitochondriale, c'est que des mythes habitaient la construction scientifique.
Oui, ça je crois que votre livre le montre très très bien.
Alors il y a des mythes qui sont issus de la Bible, l'idée de l'Ève, de la mère originelle, mais il y a aussi des mythes scientifiques. La science elle-même produit des mythes.
Bien sûr.
Et je crois que le matriarcat dont vous parliez en est un.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope.
Qu'est-ce que la théorie du matriarcat ?
On a affaire avec la théorie du matriarcat dès qu'on regarde les écrits du 19e siècle, obligatoirement, et dont je pense un petit peu tous les domaines de l'histoire, de la préhistoire, de l'histoire ancienne et peut-être d'autres domaines aussi. La théorie du matriarcat qui a été mise en avant ou disons explicitée le mieux par ce savant allemand qui s'appelait alors Bachofen si on le prononce à l'allemande Bachofen si on le prononce à la française. Cette théorie veut qu'il y a eu un certain nombre de stades dans l'humanité et qu'un de ces stades de l'humanité a vu les femmes au pouvoir. Voilà. pour le résumer de façon très, très fruste. Et cette théorie s'appuyait sur des analyses et des études des premiers ethnologues, finalement, du 19e siècle, qui avaient repéré des sociétés primitives, entre guillemets, primitives suivant leur catégorie, où la femme semblait, les femmes semblaient avoir un rôle dominant. Et donc, il y a une espèce de, je pense, d'influence des premiers écrits scientifiques que lit Bachofen et d'autres à la même époque, et cette grande théorie-là. Mais
je
bien
crois
sûr.
Que c'est quand même une anthropologie très spéculative.
Bien sûr,
oui. Je crois que les observations sur le terrain de sociétés dominées par les femmes, ce n'est pas cela qui a le plus influencé les gens qui faisaient cette anthropologie évolutionniste du 19e siècle. Je crois que c'est vraiment une spéculation sur le devenir de la famille, le devenir de l'humanité qui s'enracine dans ce stade primitif dominé par la mère.
Enfin, oui, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a les deux. Oui. Il y a aussi le fait que ces théoriciens ont besoin d'exemples. Alors ils vont les chercher où ils peuvent, et ils les cherchent en particulier dans le monde antique. Voilà. Mmh. Et pour ce qui est du monde grec, eh bien, naturellement, les premières personnes qui leur viennent à l'esprit, ce sont les Amazones. Et, et parce que ces femmes tout à fait extraordinaires semblent, dans des pays lointains comme la Scythie et ailleurs, dominer la vie sociale. Bon, on a depuis, bien évidemment, démontré que tous les textes sur les Amazones antiques et d'autres Amazones étaient des textes mythiques, bien créés par les Grecs eux-mêmes pour pouvoir mieux s'opposer à ce monde barbare qu'ils dominaient mal et qu'ils essayaient de penser. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, je pense que la théorie du matriarcat a eu d'autant plus d'influence qu'elle a été quand même reliée d'une certaine manière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, par la théorie marxiste. Et que donc, ce point de vue-là, elle a pris une légitimité qu'elle n'aurait peut-être pas eue si c'était resté le fait d'un individu isolé.
Morgan a été un des auteurs les plus lus par Engels lorsqu'il écrit...
C'est la trilogie Bachofen-Morgan-Engels, oui.
Et dans ce livre, il y a beaucoup de représentations de statuettes russes, et il y a tout pan de l'archéologie russe qui s'appuie sur les écrits de Engels, et qui fait du matriarcat le stade le plus primitif de la préhistoire, et s'appuie justement sur ces preuves que représenteraient les statuettes féminines en ivoire, que l'on trouve dans la basse vallée du Don, à Castione qui en particulier, pour dire que voilà une preuve que le premier stade économique de l'humanité a été une économie dominée par la présence féminine, par la forme du matriarcat.
C'est d'ailleurs formidablement ambigu, ces théories. Je me réfère notamment à ce qu'avait écrit Stella Georgoudi dans l'histoire des femmes en Occident, et beaucoup d'autres, bien sûr, parce que cela suppose aussi un monde immobile. C'était un monde heureux, le monde des barbares heureux, mais c'est un monde où il ne se passe rien. Et en définitive, pour qu'on entre dans l'histoire, il faut que l'homme intervienne par la guerre, le feu, la force. Il bouleverse tout, il prend le pouvoir des femmes, mais il fait l'histoire. Donc c'est extraordinairement ambigu. Et ça conforte plutôt les représentations du 19e siècle aussi, qui étaient, et beaucoup plus anciennes, femmes passives, hommes actifs.
D'ailleurs, chez Bachofen, l'idée est très claire. Ouais. C'est un de ceux qui a le plus défendu l'idée d'un matriarcat primitif, et l'idée même de la mère comme un stade, comme un moment idyllique, heureux de l'histoire de l'humanité. Mais Bachofen est un hegelien qui considère que l'avènement du patriarcat est une nécessité pour que l'humanité progresse.
Oui. Pauline.
Et alors, ce qu'on voit également très bien dans votre livre, et ce qu'on avait également ressenti en travaillant sur le monde antique, dans l'histoire des femmes, c'est que cette théorie du matriarcat a été d'une certaine manière relayée par le premier féminisme.
Voilà.
C'est à la fois très ambigu, un petit peu gênant pour nous féministes contemporaines, mais très important pour essayer de penser comment le féminisme s'est, à un moment donné, cherché des racines.
Oui. D'ailleurs, la première traduction de Bachofen en 1903 a été faite en France par un collectif d'études féministes.
Collectif d'études féministes, mais qui s'appelait comme ça,
oui, oui.
En 1903. C'est tout à fait
traduit la préface et dit qu'il fallait trouver là des éléments pour un combat des femmes pour une plus grande égalité.
Oui, il faut, cette période-là, la période 1900-1914, est une période extraordinaire pour l'histoire du féminisme, qui a été bien étudiée par les historiennes, oui.
Mais vous montrez également que vos préhistoriennes, dans les années 70, absolument, ont repris cela.
Préhistoriennes américaines.
Voilà. Américaines.
Voilà. Et il y a une circulation, d'ailleurs, qui est assez intéressante, parce que Maria Jim Boutas,
voilà.
Qui est assez peu connue en France, mais qui est une, qui a été une des grandes prêtresses de l'archéologie américaine.
C'est une sud-américaine ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Elle était d'origine lituanienne.
Elle
était justement d'origine d'Europe de l'Est.
Oui.
Et elle avait probablement été formée à cette anthropologie marxiste. Et il se trouve que, émigrant aux États-Unis en Californie, elle a mis en avant cette idée de la grande déesse. Qui manifeste un matriarcat originel, matriarcat qui dure pendant tout le paléolithique et pendant le néolithique, jusqu'à l'arrivée de ces hommes en armes venus de l'Est, les peuples des Kourganes, qui, 3000 ans avant Jésus-Christ, ont détruit ce moment idyllique,
voilà,
ont détruit ce matriarcat qui était le moment le plus paisible de l'humanité.
Oui.
Et là, on retrouve les schèmes dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, et Pauline, Maria Giboutas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans,
non, pas du tout,
dans
je
les écrits.
Je ne le connaissais pas, je pense qu'elle a surtout écrit sur des problèmes de la préhistoire.
Et la déesse préhistorique. Elle a fait d'innombrables livres qui ont été à la fois des livres grand public et d'autres plus scientifiques. Mais elle a été vraiment très connue aux États-Unis.
En revanche, je connaissais bien ce qui est également évoqué dans votre livre, c'est-à-dire toutes les théories autour de Çatalhöyük. Et parce que c'est la découverte donc de ces sites d'Anatolie a été avec une découverte d'assez nombreuses représentations féminines ou dites féminines, parce que là il y a ambiguïté quelquefois sur les sculptures que l'on baptise femmes et puis 20 ans après on se dit bon, c'est peut-être pas forcément des femmes, c'est un peu comme Lucine d'une certaine manière. Et donc Çatalhöyük et la découverte de Çatalhöyük du point de vue archéologique a relancé ce discours sur la grande mère, la grande déesse et l'importance d'une religion où les femmes, où l'aspect féminin des femmes était premier, aux aubes alors du monde du monde néolithique et ensuite l'influence vers le monde hellénique.
Oui. Oui.
Alors, James,
à l'une et à l'autre, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que chez les préhistoriens, chez les antiquistes, qu'est-ce que...
Je pense qu'il y a déjà, depuis de longues années, depuis les années 60 et 70, des critiques de cette perspective, celle de Mellart, dont vous parlez, qui a fouillé à Çatalhöyük, qui voyait une religion présente partout. Chaque structure plane était un autel, chaque représentation féminine était une déesse. Il y avait une espèce de symbolisme religieux qui était en quelque sorte plaqué sur toutes les interprétations de la préhistoire. De cela, il semble que les archéologues soient revenus largement.
Y compris les femmes féministes.
Et le féminisme américain a aussi critiqué fortement ces représentations et du matriarcat et de la religion de la déesse, disant que au fond, c'était peut-être là une façon de mettre les femmes dans une origine très reculée et de dire, au fond, vous avez eu votre moment. Et ce qui est important, effectivement, c'est le patriarcat et le passage à une société dominée par les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, les féministes américaines critiquent très largement ces idées si répandues dans les années 50, 60, 70.
Comme une idéologie, en définitive.
Voilà.
Et Pauline,
oui, c'est exactement la même chose, parce que ces études sur l'Anatolie ont eu une grosse influence aussi sur l'histoire de la religion grecque et sur toute cette époque que l'on appelle les siècles obscurs, parce qu'on n'a pas grand-chose d'écrit pour ces époques-là, mais en revanche, on a de nombreux restes archéologiques. Et alors, on avait un peu coincé dans les années 50-70 toute la religion des grandes déesses dans ce moment-là, avant l'émergence de la cité, sous-entendu avec la cité et l'installation définitive des Indes indo-européen, les choses changent, les dieux arrivent, Apollon contre Déméter, si vous voulez, d'une certaine manière. Ce schéma qui a été très orchestré par de très bons historiens des religions, y compris français, est maintenant naturellement totalement abandonné. Et tout simplement aussi parce que les découvertes, par exemple la lecture de tablettes en linéaire B, ont montré que l'ensemble du panthéon masculin et féminin était déjà présent à l'époque mycénienne. Donc on ne peut plus du tout tenir ce type de raisonnement. Et à propos alors du rôle du féminin chez les dieux et des déesses, Nicole Leroy avait montré comment dans les déesses, la représentation des déesses chez les Grecs, il y avait finalement peu d'aspects. L'aspect féminin était d'une certaine manière minimisé par rapport à l'aspect du pouvoir. Et ça, je crois que en histoire des religions, on travaille plutôt dans ce sens.
On a incorporé cela. Il faut rappeler le très beau texte de Nicole Leroy sur qu'est-ce qu'une déesse dans l'histoire des femmes occidentales sous votre direction.
Oui, la différence au fond entre la perspective des hellénistes et celle des préhistoriens est que quand même, il existe des textes. Les préhistoriens n'ont pas les moyens de vérifier sur des textes leurs hypothèses. Et cette présence des statuettes féminines, qui est incontestable, il y en existe beaucoup, elles sont fort belles, a-t-elle pour signification l'existence d'une déesse ou l'existence de représentations simplement variées de la femme dans des actions
quelquefois même, Claudine Cohen, ça peut être un jouet. Oui. Il y a une très belle représentation de presque une maison de poupée que vous montrez dans les objets. Vous dites peut-être que c'était des jouets d'enfants.
Oui. Peter Uccle, qui est un archéologue, qui a beaucoup travaillé de façon critique sur ces objets, a déplacé la question de la signification vers celle de l'utilité.
Oui, c'est ça.
À quoi ça pouvait servir?
Pas forcément le religieux, ça peut être la vie pratique, la vie quotidienne.
Alors, il y avait peut-être un usage de ces statuettes dont certaines ont l'air d'être de femmes enceintes, un usage pour protéger la grossesse, peut-être. C'était des amulettes. Certaines sont fort petites et peuvent être utilisées comme pendentifs.
Oui.
Mais de là à déduire l'idée d'une religion de la déesse, il y a vraiment un grand pas.
Et je dis au passage, j'aime beaucoup cet aspect de votre livre, c'est l'aspect justement interrogatif, j'allais dire roman policier de la femme des origines. Il y a une question importante, c'est ce que vous appelez, enfin ce qui est appelé, la perte de l'estrus, et qui est toute la question au fond fondamentale de la sexualité. Pouvez-vous nous expliquer un petit
Alors
peu
là,
ce
on
que
est
c'est
à
ça.
Des époques beaucoup plus anciennes que celles dont on parle.
Oui.
On est à des époques
on revient plus
où
en fait.
Les statuettes n'existent pas.
Bien sûr. Une femelle bête, elle fait l'amour à certaines périodes marquées par la biologie.
Voilà.
Tandis qu'une femme peut faire l'amour tout le temps.
Voilà. Et à quel moment est née cette différence?
Voilà.
C'est le problème que se sont posés assez récemment, les anthropologues. Oui. Alors, quand cette différence est-elle intervenue? On pense probablement au moment où les hommes et les femmes sont devenus bipèdes. Oui. Parce que les signes du rut se marquent donc par un gonflement de la vulve, par des odeurs, chez les grands singes, chez les chimpanzés par exemple. Ils se trouvent cachés chez les hominidés dès lors qu'ils sont bipèdes. Et les hominidés sont bipèdes. C'est la marque de leur différence, la différence de la famille des hominidés. Cette différence intervient probablement il y a 7 millions d'années. Donc on peut penser que cette perte de l'œstrus, cette perte des manifestations extérieures de l'œstrus, ça ne signifie pas que l'ovulation n'existe pas, évidemment, l'ovulation continue à exister, elle est probablement très ancienne. Alors la conséquence de cela, c'est que il n'y a pas de signe particulier chez la femelle. La femelle ne produit plus des odeurs ou des signes anatomiques ou physiologiques particuliers, et la sexualité est possible tout le temps.
Oui, Pauline ?
Oui, mais alors là, moi, je trouve que vous avez une phrase quasiment provocante dans votre livre. Quelque part, vous expliquez qu'à ce moment-là, la spécificité humaine, ce n'est ni l'outil, ni le langage, ni la religion, ni la conscience, mais le sexe.
Oui, alors ça a beaucoup intéressé les journalistes.
je me doute, et je suppose qu'un certain nombre de collègues préhistoriens ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde.
C'est une phrase un peu provocante.
J'ai fait volontairement, j'imagine.
J'ai mis il y a beaucoup de nuances à porter à cela. On peut peut-être dire que... pourquoi ? Alors, il faudrait se référer à l'œuvre de grands anthropologues, comme par exemple Maurice Godelier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et qui explique que le fait que la sexualité soit possible en permanence dans l'espèce humaine change totalement les données de la vie, et de la vie sociale en particulier. Il y a plusieurs hypothèses. Qu'est-ce que ça a pu produire, cette perte de l'œstrus ? Ça a pu produire peut-être des attachements plus grands, puisque la sexualité étant possible de façon permanente...
Elle est devenue plus complexe, la sexualité.
Elle est devenue plus complexe. Il y a des sentiments peut-être de tendresse qui ont pu se développer, puisqu'on pouvait faire l'amour en permanence, ou en tout cas de façon régulière. Donc des couples ont pu se créer autour d'ailleurs de l'enfant. Ça, c'est la version la plus traditionnelle.
Owen Lovejoy, l'anthropologie de la famille.
Voilà. Oui. Owen Lovejoy, paléontologue américain, prétend que les premiers sociétés humaines ont été des couples, donc une espèce de famille monocellulaire. On n'a pas beaucoup de preuves de cela. D'autres, comme Maurice Godelier, je crois que c'est plus convaincant, et ça rejoint d'ailleurs les thèses de Freud, expliquent que si la sexualité est présente de façon permanente, ça peut constituer un énorme désordre dans la société. La sexualité est un facteur de violence, de désordre, de jalousie.
Donc on la régule.
Et donc, peut-être est-ce le moment où sont intervenus ces fameuses normes, ces fameux interdits, ces règles de parenté qui définissent toutes les sociétés humaines, comme dit Lévi-Strauss. Nos sociétés sont construites sur l'interdit, et en particulier l'interdit de la sexualité. Et c'est en ce sens que je dis, à la fin de ce chapitre, que, étant donné toutes les conséquences qui découlent de cette perte de l'œstrus et de la permanence de la possibilité de la sexualité humaine, on peut peut-être dire que cette sexualité particulière qui est la nôtre est à l'origine de beaucoup d'éléments des structures sociales qui sont les nôtres.
Pauline, vous êtes satisfaite par la réponse ?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Non, mais, cela dit, non, j'ai écrit dans mon précédent livre un chapitre sur ce qu'on appelle les seuils de l'humanité. Et j'ai essayé de faire le dénombrement de tous les éléments qui ont été posés comme marquant la différence humaine. L'outil, le langage, la religion. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de seuil de ce genre. Et c'est un petit peu en dialogue avec cette étude que j'avais faite dans un livre précédent. Je dis qu'au fond, peut-être que là, cette différence-là, la perte de l'œstrus, est une différence majeure qui est, non pas à la totalité, mais qui est à l'origine de processus qui...
Un formidable passage de la nature à la culture.
Voilà, mais les anthropologues le disent depuis longtemps.
Depuis longtemps. Il nous reste peu de temps, j'aimerais que vous nous disiez où on en est aujourd'hui dans les recherches qui ont l'air d'avoir formidablement progressé depuis une trentaine d'années, peut-être même moins, dans ce domaine des rapports masculins-féminins, un petit point de la situation sur les chantiers, les objets et peut-être les théories actuelles.
Il y a eu un moment de grande explosion du féminisme en préhistoire. En Amérique, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et en Australie. Ça a produit des théories parfois un peu outrées. La femme était au centre de tout, c'était « woman the gatherer » et non plus « man the hunter ». Il y a eu toutes sortes de spéculations, effectivement, sur le matriarcat, la grande déesse, toutes ces choses-là, qui ont été, comme on l'a dit, critiquées. Aujourd'hui, les transformations du féminisme dans ces pays ont mené à des thèses plus nuancées, qui ne recherchent plus à prouver la prééminence des femmes, mais qui cherchent à les trouver la femme, sur les sites archéologiques et préhistoriques.
Il y a beaucoup de femmes préhistoriennes aujourd'hui.
Aux États-Unis, il y en a énormément. En France aussi, il y en a, même si elles ne sont pas tellement investies dans ces recherches. Et on cherche de façon souvent très fine, mais aussi plus ponctuelle, non pas à faire des grands systèmes d'interprétation où la femme serait au centre ou à l'apogée ou comme une déesse, mais où on peut repérer des activités féminines sur le terrain. Alors c'est très difficile, d'autant que plus la préhistoire est ancienne et plus les traces sont rares. Mais on trouve des éléments, par exemple, pour montrer que certains outils sur éclat seraient peut-être fabriqués et utilisés par des femmes. On a revu toute la question du tissage, dont on sait qu'il intervient à des moments très anciens. On trouve à Lascaux une corde et on trouve sur beaucoup de statuettes paléolithiques des éléments de décoration qui manifestent l'existence de tissage ou de fabrication de cordes dans la préhistoire. Alors il y a des réflexions sur la place des femmes dans cette invention.
Oui, une grande question de regard, si je ne me trompe, c'est vous qui avez montré qu'il y avait la Vénus de la grotte de Chauvet. Personne ne l'avait vraiment vue.
Elle a été publiée par Jean-Claude et toute son équipe dans leur grand livre. Mais curieusement, elle a eu assez peu d'écho.
Voilà,
c'est une découverte formidable et d'autant plus étonnante qu'elle a été faite par le moyen d'une technologie très sophistiquée. Elle n'a jamais été vue directement, Vénus de la grotte Chauvet. Il a fallu faire un appareil avec un bras articulé pour aller derrière un pilier pour l'observer. C'est un peu comme les gynécologues victoriens qui, pour observer leur patiente, utilisaient des moyens assez complexes d'observation. Et cette Vénus, donc, qui date de 30 000 ans, elle est magnifique. C'est un sexe de femme avec des jambes, des cuisses dessinées. Et la vulve est creusée d'un sillon de 4 cm de profondeur. C'est tout à fait étonnant. En plus, elle se trouve sur une sorte de stalactite d'aspect phallique.
Oui.
Donc il y a toute une symbolique qui est certainement présente.
L'imaginaire, en tout cas, peut travailler là.
Absolument.
Il y a l'image de l'origine du monde de Courbet.
Absolument.
Hein, c'est tout à fait caché
ça ressemble
dans la grotte.
Et j'ai pensé que j'ai mis cette image au début de mon livre. Et il me semble qu'elle était à la fois la plus ancienne et peut-être une des plus belles.
Oui.
Et que cette découverte tout à fait récente est en quelque sorte la matrice de toutes les autres représentations qu'on trouve de la préhistoire.
Pauline Schmitt, est-ce que vous pourriez faire un commentaire analogue si on vous posait la question en histoire grecque
sur
beaucoup plus de choses.
Non, oui. Des représentations semblables de femmes, il y en a peu, je suppose. Celle-ci est vraiment extraordinaire. Donc, je voulais revenir sur l'évolution de la pensée féministe en préhistoire, qui me paraît très parallèle avec l'évolution de la pensée féministe dans d'autres domaines de l'histoire.
La préhistoire est dans l'histoire, finalement.
Tout à fait. Et parce que toutes ces constructions, disons anciennes ou même jusque dans les années 70, ont répondu à un besoin qui était un besoin d'identité aussi, des femmes, d'identité sociale, d'identité politique, d'identité scientifique. Puisqu'on est dans un domaine scientifique, c'est peut-être le domaine où l'identité des femmes est le moins sûrement reconnue. Et avec la progression, d'une certaine manière, de la place des femmes dans la société contemporaine, on peut voir petit à petit un certain, non pas rejet, mais une certaine distance prise avec toutes ces grands mythes féministes qui n'ont plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. On n'a plus vraiment besoin de se raccrocher à un matriarcat ou à une grande déesse pour penser le féminisme et pour vivre le féminisme contemporain.
Et pour redonner aux femmes une place
dans l'histoire. Et tout ce que vous dites sur ces études contemporaines de préhistoire qui cherchent à identifier les rôles, les formes, les enjeux sociaux, la construction des hiérarchies, etc. etc. Ce sont naturellement des buts qui sont ceux de l'histoire des femmes en général. Moi, je me dis, c'est formidable si on arrivait à le faire en préhistoire, parce qu'on a déjà tellement de mal à le faire avec des sociétés qui ont des écrits, que vraisemblablement, le rôle des préhistoriennes et des préhistoriens de ce point de vue-là est encore plus compliqué. Mais je pense que là, il y a vraiment un grand parallélisme dans l'évolution de la recherche.
Oui,
et
je suis tout à fait d'accord.
De même que le mythe des origines n'a plus grand-chose à voir avec nos sociétés contemporaines en général.
En général. Alors, vous nous montrez ça superbement, l'une et l'autre. Et je voudrais rappeler les titres de vos livres. Claudine Cohen, « La femme des origines », Image de la femme dans la préhistoire occidentale, Belin-Herscher, 2003, et Pauline Schmitt-Pantel, Ève et Pandora, la création de la première femme, ouvrage collectif auquel vous avez contribué largement et qui est paru chez Gallimard en 2001 dans la collection Le Temps des images. Je voudrais également signaler plusieurs autres livres sur l'histoire des femmes, et notamment celui de Nicole Laureau, à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui avec émotion. Elle a été une des nôtres et combien importante dans le développement de l'histoire des femmes. Un livre d'elle paraît aux belles lettres, La Grèce au féminin, c'est peut-être pas tout à fait le titre, mais je le crois. Voilà donc ce livre, nous aurons probablement l'occasion, je l'espère, d'en reparler. Et puis alors je voudrais vous signaler également un livre de Sophie Mousset, Olympe de Gouges, dans une nouvelle collection, Les Marginaux, aux éditions du Félin. C'est intéressant parce que on a le court texte d'Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un de nos grands classiques, ou du moins qui devrait l'être. Et donc c'est publié avec une introduction historique. Et puis je signale également Christiane Douillère de Melaner, Séverine et Vallès, Le cri du peuple, Payot 2003. Séverine est une des premières grandes journalistes de la fin du 19e siècle. Elle a travaillé avec Jules Vallès dans ce journal qui a eu beaucoup d'importance alors. Et ce sont aussi des femmes premières, l'une et l'autre. Par conséquent, femmes des origines, femmes premières, c'était donc le sujet de notre émission. Je vous remercie toutes les deux pour votre participation si importante. Et maintenant, vous allez entendre Arlette Farge pour l'histoire autrement.
L'enfant, l'enfant chéri au siècle des Lumières. Le musée Promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes propose une exposition de peinture sur ce thème de l'enfant jusqu'au 15 juin 2003. Et l'enfant, bien sûr, c'est un thème majeur du XVIIIe siècle. On ne peut pas ne pas savoir que à la fois les écrivains, mais aussi les médecins, les chroniqueurs, les hygiénistes, les élites politiques aussi, en ont fait le lieu d'un discours spécifique. Parce que, bien sûr, au XVIIIe siècle, il faut le préserver, il faut l'allaiter. Et en somme, il faut en faire un sujet de la nation. Et cela devient une préoccupation majeure. Alors, on peut le comprendre, dans ce contexte socio-culturel, socio-politique, les peintres se logent facilement, et c'est la bonne idée de cette exposition d'avoir rassemblé de nombreuses peintures autour de ce thème de l'enfant. Et les peintres se logent facilement parce qu'ils suivent en cela, je crois, déjà la délicatesse des peintures de Jean Clouet au XVIe siècle, et donc d'une filiation, mais qui n'avait pas vu sa grandeur et son harmonie aussi grande qu'au XVIIIe siècle. Alors j'ai invité aujourd'hui Christine Kaiser, qui est conservateur du musée Promenade et qui est commissaire de cette exposition. Non seulement cela, mais elle a dirigé aussi le catalogue et fourni beaucoup de commentaires et d'analyses dans ce livre. Alors Christine Kaiser, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais vous demander pourquoi vous avez mis en titre, et si vous l'avez choisi, « Enfant chéri des Lumières ».
Eh bien, l'enfant chéri, c'est le titre de deux peintures de cette époque. L'une de Le Prince et l'autre de Marguerite Gérard, qui ont été reproduites dans la gravure. Ce ne sont pas d'ailleurs des gravures particulièrement intéressantes et nous ne les avons pas montrées dans l'exposition. L'enfant chéri pour Le Prince, c'est la mère et la grand-mère penchées autour du berceau de l'enfant. Et pour Marguerite Gérard, c'est un enfant que sa mère tire dans une sorte de chaise roulante. Mais le titre est assez étonnant pour susciter la réflexion et signifier cette sorte de révolution qui se produit après 1750 dans le regard sur l'enfant.
Oui, d'ailleurs, moi j'ai trouvé le titre « L'enfant chéri au siècle des Lumières » correspondre tout à fait, en effet, à cette espèce d'engouement à la fois pour l'enfant, mais pour son attention, mais aussi à sa santé, autant qu'à sa représentation. En fait, c'est à la fois un engouement, mais c'est aussi une sorte de passion qui demande que beaucoup d'ordre soit donné à l'enfant pour qu'il soit bien. Enfin, je veux dire, beaucoup d'ordre, beaucoup d'injonctions médicales, etc. Tout le discours sur l'allaitement, c'est quand même tout un discours de préservation, de soins.
Oui, mais la différence par rapport aux années précédentes, c'est que avant, l'enfant était déjà soumis à de nombreux ordres, mais qui étaient d'une nature différente. C'est-à-dire qu'il s'agissait de réprimer.
Oui, c'est sûr. Donc, tandis que là, c'est son bien-être qui est le plus... Donc, en plus, on lui retire le maillot, etc. On le désemmaillote, il faut l'aérer, etc. Donc, c'est un siècle qui prend soin de lui, au fond.
C'est un siècle qui découvre la petite enfance. Et autant au XVIIe siècle, les médecins comme les philosophes considéraient que l'enfance était un moment passif, un moment de sensibilité et non pas d'accès à la conscience de soi, donc un moment végétatif dont on ne s'occupait que comme on peut s'occuper d'une plante et encore donc avec beaucoup de méconnaissance de l'hygiène, effectivement. Et puis avec les médecins, avec les philosophes, tout à coup, poussé par sans doute un besoin, enfin la constatation d'une dénatalité, enfin d'une diminution très sensible du nombre d'enfants vivants, on s'est mis à penser à l'enfant autrement qu'en termes de passivité. On s'est aperçu que dès qu'il naissait, il fallait s'occuper de lui.
Oui, c'est ça. En fait, on peut dire que c'est une sorte d'idéal social du XVIIIe siècle, s'occuper de l'enfant à cause du dépeuplement. C'est vrai que pour qu'un enfant atteigne 4 ans, il faut mettre 4 enfants au monde, je crois me souvenir. Et c'est effectivement ça. Mais alors, dans cette exposition qui est très belle, dans ce musée Promenade, dans cette exposition, ce qui frappe, évidemment, c'est que les représentations essentielles sont des enfants de classe sociale les plus favorisés. Donc c'est un regard qui est un regard qui n'est pas un regard réaliste, enfin s'il l'est, mais enfin qui est un regard de représentation au fond. Est-ce que vous partageriez ça? Est-ce que c'est une représentation picturale de l'enfance ou est-ce que c'est une représentation naturaliste d'une classe sociale au fond?
C'est une mise en scène par une classe sociale de sa propre progéniture. C'est tout à fait exact. Il n'y a plus d'enfants pauvres à la Lenain ou au Rio. Il n'y a plus que la descendance de la bourgeoisie éclairée, de l'aristocratie, mise en scène comme autrefois les personnes les plus vertueuses de la nation, les ancêtres les plus nobles de la famille pouvaient l'avoir été.
Et alors, on n'a pas toujours... ce qui est intéressant, c'est l'alternance entre le portrait d'enfant, où tout est la figuration est essentiellement centrée sur le visage de l'enfant, ou alors, au contraire, des représentations d'une mise en scène familiale. Mère, père, enfant, ou scène de famille. Donc, il y a au fond deux genres. Et je trouve que tout ce qui appartient au portrait, même si ce sont des peintres très différents comme Madame Vigée Lebrun ou Greuss, qui sont vraiment deux statues de peinture totalement différents, les portraits restent tous, enfin les portraits d'enfants très précis, donnent une idée d'un genre spécial. Le portrait d'enfant, c'est pas la maternité.
Oui. Le portrait d'enfant, c'est le portrait d'un individu. C'est ce portrait un peu historique d'autrefois, appliqué à l'enfance, avec une différence notable par rapport aux premières années du 18e, c'est que donc l'enfant n'y est plus représenté comme un adulte. Il a le statut de l'adulte, mais on lui accorde la fraîcheur de sa propre expression, de sa petite morphologie enfantine particulière, et un regard surtout.
Oui, puis sa grâce, ses petits bras un peu poupons, enfin effectivement, alors qu'avant il était représenté comme un petit homme, quoi, en rétréci, c'est ça. Exactement. Et là, il y a beaucoup de traits sont liés à, enfin, ce qu'on pourrait appeler sa grâce, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un peintre qui est au milieu de tout. Il y a énormément de peintres présentés dans cette exposition, on ne pourra pas tous les citer. Il y a un peintre qui tranche par rapport aux autres et qui effectivement donne des scènes de genre quand même plus populaires, c'est Greuze. Et Greuze, qui est quand même le mal-aimé des peintres. Et là, il est extraordinairement représenté. Ça faisait plaisir, vraiment. Parce que c'est difficile de trouver les peintures de Greuze. C'est quand même le mal-aimé de notre peinture, non?
C'est vrai que sa peinture d'histoire, sa peinture moralisante du fils prodigue est assez pompeuse et finalement n'a pas tout trouvé sa place ni à son époque, ni peut-être à la nôtre. Entre elle n'est ni tout à fait naturelle, ni complètement héroïque. Mais ce que l'on montre là dans cette exposition, ce sont des commandes non pas destinées à des mises en scène d'histoire et qui retrouvent une fraîcheur que sa peinture a souvent perdue, qu'il s'agisse de portraits finis ou de têtes d'expression. Donc dans les têtes d'expression, c'est encore plus vrai.
Oui, mais j'ai trouvé qu'elles étaient très émouvantes, les têtes d'expression, les têtes de fillettes, justement. Il y en a plusieurs. Elles sont... moi, j'ai trouvé ça magnifique. Mais j'ai toujours trouvé que la peinture de Greuze était... était mal classée, enfin qu'on n'arrivait pas, parce que même les scènes de, les grandes scènes du fils prodigue et tout, si on voit les expressions, c'est beau quand même. C'est enfin moi je trouve ça beau. Pour
c'est, mais disons que moi je trouve que souvent c'est quand on regarde ces tableaux d'histoire, les expressions ont quelque chose d'un peu répétitif et théâtral et qui peut paraître un peu pesant.
Je comprends.
Tandis que dans son travail donc de commande ou dans ses études faites sur le vif, il y a sa sensibilité magique à lui qui apparaît effectivement. Et on a un petit peu de mal à comprendre comment cette sensibilité a été étouffée, sauf à penser que lui-même a voulu s'accrocher à un modèle. Ce modèle de peinture d'histoire dans laquelle il aurait tellement voulu accéder en tant qu'académicien, qui lui a fait rechercher une grandeur héroïque qui n'était peut-être pas finalement celle de son vrai tempérament.
C'est vrai, vous avez raison, oui. Mais en même temps, pour une historienne ou un historien, je veux dire qu'il y a des scènes familiales qui sont très fortes et qui correspondent finalement à quelque chose qui a un écho avec une réalité qu'on peut connaître en histoire. Je pense par exemple à la grand-mère, parce qu'il y a aussi les liens, il n'y a pas que les liens maternels, il y a la grand-mère, puis il y a la famille est complètement regroupée, puis il y a les petits animaux, les objets, etc. Ce sont des scènes qui sont finalement assez réalistes à la limite.
Oui, c'est vrai que dans les gravures que nous avons de Greuze, qui sont des reprises de ces peintures célèbres, on a des grandes qualités aussi d'observation, qu'il s'agisse de la lecture de la Bible ou de la, effectivement, la grand-maman qui peste contre le laxisme de sa belle-fille, qui donne à manger qui laisse le petit garçon donner à manger au chien.
Donner à manger au chien. Donc, une espèce de scène prise comme pris sur le vif, en un sens. C'était un peu pour le réhabiliter, mais je trouve qu'il y a de très très beaux portraits.
Oui, je crois qu'on peut souligner vraiment qu'il y a dans cette exposition deux pastels inédits des chevaliers de Pange qui datent de 1769 et deux études d'expression, notamment d'une fillette qui vient du musée de Marseille, qui sont très émouvants parce qu'on y sent la morphologie de l'enfant à travers des détails pratiquement insoupçonnable a priori de la raideur d'une nuque ou d'un petit cheveu qui dépasse et puis un œil qui reste tout de même un œil qui a son quant à soi.
Puis la mélancolie, un peu de mélancolie, etc. Il y a des c'est beau d'avoir ces portraits qui n'étaient pas connus, enfin que moi je ne connaissais pas ils sont très très peu montrés. Et bien sûr aussi ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que l'amour paternel est lui aussi qui est quand même très figuré dans l'entreprise littéraire, est figuré lui aussi par certains peintres, comme je pense à Étienne Aubry. Donc je ne sais pas quelle place il avait exactement au XVIIIe, mais qui semble figurer là quelque chose de très fort.
Oui, son tableau dont nous avons la gravure a eu un très très grand succès, c'est pour ça qu'il a été gravé, donc sa place de peintre de scène de genre était importante. Le peintre de scène de genre était moins considéré que le peintre d'histoire, mais dans cette catégorie un peu secondaire, il a eu énormément de succès. Et c'est quelqu'un qui s'est complètement assimilé à cette nouvelle problématique de l'amour familial autour de du nœud parent-enfant.
Et en même temps, cet amour paternel n'est pas tellement représenté finalement. C'est pas le grand thème majeur de cette exposition. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de mère à l'enfant, avec l'affiliation évidemment des vierges à l'enfant, ou la mère allaitant même, ou la grand-mère, etc. Ou la scène familiale, mais le père, je trouve qu'il a été Aubry a une certaine originalité pour ça.
Oui, c'est vrai, oui. On retrouve en regardant son œuvre des échos de Rousseau parlant de son père sévère.
Ah oui. Oui, parce qu'il y a une espèce de sévérité, de justesse en même temps, quand on le regarde de près, quand on l'examine de près, c'est un très beau.
Oui, c'est le nouveau père de l'encyclopédie, c'est lui qui se fait du souci pour ses enfants.
C'est ça, oui, exactement. Il correspond tout à fait à cet homme des Lumières, inquiet, qui mettra quelques notations dans ses journaux intimes, alors qu'avant on en mettait peu sur ce qui se passe pour son enfant.
L'homme qui admet d'être sensible.
Oui, tout à fait, oui. Et puis alors, vous avez accordé une grande place à Madame Vigée-Lebrun, dont là, on peut découvrir vraiment l'œuvre. Et aussi, alors là, on peut dire, bon, il y a quelques semaines, je faisais une émission qui n'a même rien à voir puisqu'il s'agissait d'une femme japonaise et de son fils. Donc, mais c'est là, c'est un amour maternel énorme, incommensurable que Madame Vigée-Lebrun veut faire vivre constamment avec sa fille Julie.
Oui.
C'est un thème très fort qui est constant.
Oui. C'est une exposition qui rassemble plus d'œuvres de Vigée-Lebrun depuis 1982.
Ah, si j'ai pensé que j'ai jamais vu autant, oui.
Et c'est son sujet de prédilection, effectivement, ça a été sa fille, et que dans son autoportrait avec sa fille, qui s'est même appelée la tendresse maternelle, tant il a frappé les critiques pour cette effusion nouvelle. Et nous proposons un portrait de Julie à 12 ans, venue de Bologne. C'est une histoire qui mérite un peu de méditation, cet amour exclusif, un peu narcissique. Pour sa fin tragique, il nous fait penser que l'amour peut être très fort sans être forcément constant ou forcément généreux, puisque vous savez donc qu'elle s'est séparée de sa fille à la suite du mauvais mariage de celle-ci, et que cet enfant qui était vraiment sa joie de vivre, son rayon de soleil de tous les jours, elle l'a laissé mourir toute seule.
Oui, c'est d'ailleurs presque inimaginable. Enfin, c'est quelque chose d'impensable, alors que sa fille voulait se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, elle se sépare. Puis, sa fille mourra avant elle, d'ailleurs.
Sa fille meurt beaucoup de nombreuses années avant elle. Oui. Et elle est de retour à Paris quand elle meurt, et elle est dans la misère, et sa mère vient la voir pour prendre connaissance de son état tragique, mais elle n'est pas là quand elle meurt, ce qui montre qu'elle ne lui accorde que quelques visites, et après elle redéveloppe des liens un peu de dévotion avec ses nièces. Sans doute, Vigée-Lebrun aimait-elle beaucoup être entourée et être l'objet d'adulation?
Oui, alors est-ce que finalement, cette femme peintre, parce que c'est quand même rare, les femmes peintres au milieu de ce 18e siècle, est-ce qu'elle est reconnue immédiatement en son temps?
Elle
tient sa place immédiatement.
Oui, elle est reçue académicienne, dans la catégorie des portraits, mais pour une femme, c'est tout de même quelque chose de très nouveau, grâce sans doute à l'appui de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, dont elle a commencé à faire
les portraits. Oui, c'est ça.
Mais elle est authentiquement reconnue comme une très grande artiste, parce que ses tableaux ont beaucoup de succès, les critiques aussitôt, d'ailleurs, laissent entendre que ce n'est pas elle qui fait ses portraits.
Oui, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est impossible de penser que c'est elle, parce que c'est l'opinion pense que c'est pas elle qui a fait les portraits.
Oui, mais donc quand on lit la littérature de cette période, on s'aperçoit que ce biais consistant à enlever aux femmes célèbres l'authenticité de leurs œuvres littéraires est général.
Oui.
Et toutes s'en plaignent en disant finalement avoir du succès n'apporte que des déboires, parce que on perd l'amitié des femmes, on perd celle des hommes, et dès qu'on a du succès, on dit que c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour vous ou qui tient le pinceau pour vous. Et effectivement, autant on peut arriver à se dire que la rumeur peut construire l'idée que c'est quelqu'un d'autre qui est le nègre d'une femme écrivain, mais penser que c'est un autre artiste qui fait surtout ses portraits, ça paraît plus fort de café tout de même.
Oui,
et elle-même le dit, hein, quand
elle
dit qu'on attribue à Ménageau ses portraits, elle dit, il y a pourtant assez de gens qui pourraient dire que c'est moi devant qui ils ont posé.
Oui, c'est ça, oui, mais elle semble une forte personnalité en même temps, elle se défend assez bien.
Oui.
Il faut qu'elle ait eu une forte personnalité pour se défaire aussi de sa fille dans les conditions dans lesquelles elle s'est défaite. Mais elle peint d'une manière relativement classique, avec quelque chose. Même, je trouve que c'est les peintures de sa fille sont quelquefois des peintures, non pas impersonnelles, mais ont quelque chose de qui reste toujours respectueux d'un académisme pictural certain.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, et l'exposition rapproche Drouet, qui est un peu un précurseur, un des premiers à avoir connu du succès dans les portraits d'enfants de Vigée-Lebrun, de Greuze et de Fragonard. Et par rapport à tous ces artistes, en fait, elle a une sensibilité authentique de la psychologie du modèle qui n'est pas académique. Et puis, elle n'accorde pas une importance à l'accessoire et au tissu comme drouet pour eux-mêmes, comme signe ostentatoire, mais plutôt comme une sorte de prolongement de la personnalité. Et ça, je trouve cette peinture un peu psychologique, au contraire, est assez novatrice.
Mais alors, vous l'avez dit, en fait, c'est vrai que beaucoup de... Alors, on quitte Madame Vigée-Lebrun, mais il y a beaucoup de portraits qui accessoirisent l'enfant avec, évidemment, les choses les plus attendues, mais qui veulent toujours symboliser un rapport à la nature. Alors, il y a beaucoup d'enfants avec des petits chiens, des animaux, ou tenant des objets. Oui. Mais il y en a un qui est vraiment étonnant. C'est celui, enfin, qui est connu quand même, mais c'est la fillette aux capucins. Son jouet est un petit moine en bois.
Oui. Parce que, en fait, la poupée n'est devenue le succès d'année du bébé que très tard, vraiment à la toute fin du XVIIIe siècle. Et le jouet poupée était déjà assez fréquent à partir de 1750, mais c'était une figure adulte. Soit c'était une femme qui signifiait ce que la petite fille allait devenir, soit ça pouvait être effectivement un moine, parce qu'on jouait avec tous les éléments de l'Église.
Oui.
Pour sans doute former un peu l'éducation à la morale.
Oui, c'est ça, parce qu'on peut les représenter. Enfin, ils jouent les jouets, parce qu'il y a un article sur les jouets, enfin, des enfants, l'enfant dans sa représentation entouré de jouets, dans votre catalogue. Et les jouets, ça peut être un ciboire. Oui, et ça, c'est vraiment extrêmement étonnant, parce que c'est un rapport au sacré qu'on ne devinerait pas. Enfin, qui semble, enfin, qu'il faut regarder dans la peinture, qui est étonnant, je veux dire. C'est un rapport quand même, le ciboire, l'hostie, etc.
Oui, vous voulez dire que ça pourrait paraître...
Oui, iconoclaste, c'est ça que je voulais dire. Mais je pense que pour le monde protestant, ça devait être très très difficile à admettre.
Enfin, je sais pas, dans une société bourgeoise catholique.
Voilà. On a vraiment une on est vraiment dans ce que vous dites, qu'on est dans la représentation du même, de soi-même, de sa propre classe sociale et appartenance religieuse.
Oui.
Sans doute. Enfin, je sais pas, mais j'ai pensé ça comme ça. Oui. Et puis, dans le catalogue, il y a, je trouve, un très très intéressant article sur la peinture de l'enfance en Angleterre au XVIIIe, qui est quand même extraordinairement différente.
Oui. Oui, nous n'avons pas pu dans l'exposition montrer d'autres pays.
Oui.
Parce que on n'en aurait jamais fini.
Trop. Non, ce n'était pas possible. Elle est déjà très importante.
Et sauf à survoler. Mais c'est vrai qu'il il est frappant de voir qu'il y a à la fois des points communs dans cette Europe des Lumières et des différences et des antériorités. Donc, la peinture du 16e, 17e hollandaise avait déjà accordé une grande place au portrait d'enfants, mais un portrait bien sûr encore un peu raide à la manière des Quakers. Mais et la peinture anglaise avec Hogarth et Gainsborough apporte cette spontanéité de mouvement un peu avant la peinture française, parce que c'est dès 1740-1750. Et c'est une petite étude qui nous permet de confirmer un peu les sources de cette peinture, qui semble très fortement liée à la classe sociale bourgeoise et commerçante qui donne plus de place à la famille.
Oui, mais justement, ce qui est bien montré, je trouve que c'est un contrepoint très intéressant dans le catalogue, c'est que c'est vrai qu'il y a une peinture qui est assez différente, mais les deux, c'est pas du fantastique, mais quelque chose de plus noir, comme il le dit, quelque chose de plus cruel, il emploie le mot cruauté, et je pense à ce tableau-là qui est dans le catalogue d'un petit garçon
de Reynolds
qui s'appelle Cupidon, l'enfant entremetteur, qui semble quand même un petit peu menaçant sur fond de petite chaumière. Et un autre tableau de Wright of Derby, je prononce mal, Expérience du vide avec un oiseau, qui rejoint une sorte de fantastique littéraire que les Anglais apprécient, surtout au XVIIIe siècle. C'est très, très intéressant, ça.
Oui, c'est peut-être le réalisme anglais qui ne s'arrête pas à peut-être un côté uniquement rose de la vie et qui provoque cette peinture un peu côté pervers de l'enfant.
Oui, c'est ça. Mais je trouve justement c'est très intéressant parce que si vous voulez, ça, on a quand même une douceur et une harmonie familiale présentée par enfin voulu, et il y a quelque chose de très fort en même temps. On sent que le 18e veut imprimer profondément un regard précis sur l'enfant. Et tout d'un coup, il y a ce contrepoint anglais qui vient montrer autre chose, qui annonce un peu le 19e.
Tout à fait.
Pas
oui, absolument. Oui. Absolument.
Et alors, pour terminer, je voudrais vous demander, mais c'est une question un peu piège, mais pas piège, mais je voudrais vous demander, vous voudriez prendre un seul peinture pour chez vous, de ces enfants-là, qui vous choisiriez-vous? Parce que j'ai attaqué cette pauvre Madame Gillebrun, que vous semblez beaucoup aimer, et privilégiée, grosse. Et peut-être qu'il y a un portrait que vous aimeriez
non,
beaucoup.
Non, c'est vrai que celui que je préfère de tous, c'est la petite fillette de Greuze.
Ah, c'est comme moi.
C'est oui. L'esquisse, la sanguine, oui, je trouve
que d'une c'est...
grâce extraordinaire.
Rien que pour ça, il faut aller vraiment à cette exposition, à ce musée promenade. C'est vraiment extrêmement... Non, c'est vrai, parce que c'est inédit, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça révèle une vraie personnalité. Je remercie beaucoup Christine Geyser, qui est conservateur au musée. Merci, c'était L'enfant chéri au siècle des Lumières. Les Lundis de l'Histoire, ce matin, étaient présentés par Michel Perrault et Arlette Farge. L'équipe de réalisation, Ariane Herbé, Pierrette Perronneau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 mai 2003.